Il était une fois le roi de Belge, son nom Léopold II, et ce monsieur colonisa l'état indépendant du Congo. Il donna après, évidemment, ce territoire à son royaume, la Belgique. Pour rendre hommage à leur roi, les Belges installèrent des statues, notamment la statue équestre du monarque belge, à la place du Parlement, actuellement connu sous le nom de Palais de la Nation. Après l'indépendance et au regard de l'évolution sociopolitique de la RDC, les statues furent déboulonnées et jetées en pâture dans des dépôts de nos musées. Quelques années plus tard, près de 44 ans après l'indépendance, ces monuments ressuscitent et refont surface. Et pour commencer l'opération, la statue équestre du roi des Belges Léopold II fut placée à la place de la gare centrale. Juste pour quelques heures, parce qu'après, cette statue va être redeboulonnée et rapatriée, pardon, remise dans les dépôts de nos musées. On a dit qu'il y avait erreur de l'histoire. Bon, on va écouter d'abord ce reportage que Jolie Malivoto nous a fourni, avant d'écouter vos réactions, avant d'entendre des spécialistes. Jolie Malivoto.
La ville de Kinshasa va bientôt retrouver son visage d'antan à travers la réhabilitation de certains monuments. Cette nouvelle fait suite à la décision du ministre de la Culture et Arts de réhabiliter tous les monuments coloniaux suspendus lors de la Deuxième République. Une décision qui tombe à pic. Pourquoi? Christophe Muzungu donne des raisons.
Je crois que tout peuple a son histoire. La réhabilitation des monuments coloniaux fait partie de notre histoire. Ces monuments existaient déjà. Aujourd'hui, nous voulons les réhabiliter, faire en sorte qu'il y ait une place où nous allons les exposer et que les jeunes, la jeunesse puissent aller voir qui était Léopold II, qui était Stanley, qui était Albert Ier, qui était Mobutu, qui était Joseph Kasavubu. Si Léopold II était mauvais et qu'il a coupé les bras de nos compatriotes, ben c'est une raison de plus pour qu'il soit exposé, que les gens sachent que voilà, c'est telle personne qui a fait ceci, qui cela. Il n'a pas été que mauvais. Il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Le plus important, c'est que les générations présentes et futures doivent comprendre l'histoire. D'où nous venons? Comment nous nous appelons le Congo? Avant, qu'est-ce qu'il était?
C'est bien beau de réhabiliter tous les monuments qui ont marqué l'histoire de notre pays. Cependant, les avis sont partagés à la question de savoir s'il est nécessaire de réhabiliter certains statuts des colons. À voir ce qui s'est passé à l'époque coloniale, les hommes pensent que c'est insultant. Le monument de Léopold II sur son cheval ne peut jamais être élevé au Congo. Pour eux, des centaines de milliers et peut-être des millions de Congolais ont perdu leur vie à cause du régime mis en place par le roi Léopold II. Le seul et mauvais souvenir que garde encore la population, c'est celui d'un régime de terreur. Pendant ce régime, beaucoup de Congolais ont vécu dans l'esclavagisme, massacres, tortures et autres crimes commis à l'encontre des populations congolaises. C'est d'ailleurs le point de vue de ce vieux papa.
Parler de Léopold II d'ailleurs, nous sommes maintenant tout un peuple. Léopold II nous a pris comme ses esclaves. C'est aussi vraiment seul monument qui va vraiment continuer à nous faire revenir à l'idée que nous avons été colonisés, pillés. Et jusqu'aujourd'hui, si nous souffrons, c'est la mauvaise mentalité que les Belges ont impliquée dans nos hommes.
Les autres pensent que la réhabilitation de ces monuments fait partie des archives immortelles ou de l'histoire du Congo.
Oui, et remettre les monuments de Léopold II, de Stanley, tout ça en place, ça fait partie de l'histoire de notre pays. On ne peut pas effacer l'histoire d'un revers de main comme ça. Il y a les bons côtés de l'histoire et les mauvais côtés de l'histoire. Il y a certains faits qui sont liés à Léopold II, à Stanley, tout ça, que ça reste dans les annales de l'histoire de notre pays.
Kozongisa ba monument, ezali eloko ya mabete. Léopold II, na ba Stanley, na koki kozongisa, pona kolakisa na bana pe ba koko na biso, et pa ito otaki.
Ezali malamu, pona bano bazo botama.
Pour nos enfants qui grandiront, ils doivent quand même connaître ce qui est passé, et même de notre époque, ou plus, ou encore de l'époque où nos ancêtres vivaient. C'est pour dire que l'histoire doit vraiment survivre et rester. En tout cas, on ne peut pas l'enterrer. On se réfère toujours à quelque chose pour arriver à un point.
D'autres encore affirment que l'idéal serait de réhabiliter plutôt les monuments de nos vaillants combattants congolais, l'exemple de Kasavubu et de Mobutu.
Kasavubu azalaki président na Mbokoyo, akufa, Mobutu azalaki président na Mbokoyo, 32 ans, bakoki kolongola elongi na ye kaka boye pamba te, esengeli pe histoire wana itikala na bana na biso lokola tozali deja na monument ya Lumumba na musée Laurent Désiré Kabila na kosengete ba nkumu oyo basalaka musala na mboka na biso bana na biso baza kotanga na bango na ba classe mais ba monument na bango pe bakoki kola habiliter yango.
Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous garde au moins soit un bon souvenir, soit un mauvais souvenir de la colonisation. Mais on n'enterre pas l'histoire, dit-on. On se réfère toujours d'elle pour arriver à une fin. En effet, l'histoire devrait nous permettre d'analyser et de comprendre le passé pour bien préparer l'avenir.
Et voilà, au cas d'élection, nous parlons de la, si vous voulez, la résurrection de l'histoire par rapport à certaines œuvres, notamment les statues des monarques colonisateurs qui vont ressusciter, qui ressuscitent des dépôts de nos musées. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vécu. La statue équestre de Léopold II, roi des Belges, a passé quelques heures à la gare centrale, à la place de la gare centrale. Cette statue a été redoublonnée quelques heures après. On nous a appris que la statue sera placée ailleurs, à Kinshasa. Erreur de l'histoire, il paraît, c'est vrai, le roi Léopold II n'a jamais été à la gare centrale, il était plutôt à la place du Parlement, actuellement Palais de la Nation, c'est là que repose l'ancien président de la République, feu Laurent Désiré Kabila, où est-ce qu'on le mettra, et Dieu seul sait, mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que cette statue équestre a repris la route du musée, où il était gardé depuis quelques mois. Alors, pour parler de tout ceci, nous avons en studio maintenant le professeur Joseph Fibogo. Professeur, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, si vous pouvez vous rapprocher du micro.
Voilà, merci. Merci bien.
Alors, vous êtes directeur adjoint du Musée national du Congo. D'abord, quand vous avez observé cette opération, quelle lecture en avez-vous fait?
Ben, écoutez, je suis le professeur Joseph Bongo. Merci d'avoir accueilli dans vos studios. Je suis le professeur Joseph Bongo, directeur général adjoint à l'Institut des musées nationaux, et professeur à l'INA et à l'Académie des beaux-arts. Et je viens vous m'avez invité. C'est donc pour pouvoir répondre à vos questions. Mais quelle lecture ai-je faite? Simplement, c'est le fait que le gouvernement initie là une culture pour le monument. Et je pense que avec l'arrivée du pouvoir actuel, vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de personnages, disons il y a des faits qui sont célébrés, et comme le mausolée de Kabila, et il y a aussi en perspective et un monument et en hommage du feu président Kassavubu et le héros Patrice Lumumba qui est déjà à la place des changeurs. C'est une action qu'il faut louer, il faut dire pour le gouvernement actuellement, et c'est pour marquer l'histoire de ce pays et qui doit être fixé par des monuments qui magnifient un certain nombre d'événements. Et ça, je pense qu'il faut louer cette action. Et c'est pour ça que à l'arrivée de Maître Christophe Muzungu, Son Excellence Monsieur le Ministre de la Culture des Arts, vous avez remarqué également qu'il a fait un geste fort, c'est de regrouper les monuments et coloniaux et qui étaient
presque abandonnés.
Oui, dans un état abandonné, s'est retrouvé les uns à Kingabwa et d'autres à la première rue au BAU de Limété. Et il a pris l'initiative de regrouper ces monuments et les a placés à l'Institut des musées nationaux du Congo. C'est une action louable en même temps parce que on a mis au même endroit, aux côtés du patrimoine culturel national, ce patrimoine colonial. Et ça, comme je le répète encore, c'est extrêmement important pour reconstituer une des pages de l'histoire de ce pays.
Mais ce qu'on a entendu ici, c'était d'abord que ces statues étaient abandonnées. Ils avaient été presque jetés. Il y a des images d'archives qui montrent l'ancien président, le maréchal Mobutu, notamment à la gare centrale, assistant presque avec une certaine fierté au déboulonnage de la statue du roi Albert qui était à la gare centrale. Donc ça avait été rejeté comme par dire on veut couper l'histoire avec la colonisation. Mais aujourd'hui, quand on le remet, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre l'importance de la remise en place, en selle si vous voulez, de ces statues coloniales.
Écoutez, l'histoire, on peut la lire diversément selon son éducation, sa culture et sa sensibilité aussi. Et ceux qui désapprécient, peut-être ils ont des raisons, ça peut être des raisons d'ordre purement politique ou idéologique, mais à mon avis, c'est une concrétisation de l'ouverture qu'amorce le gouvernement. C'est aussi une concrétisation des rapports, si vous voulez, de dialogue avec les autres cultures, avec l'autre. Et ça, je pense que toute personne, de quelque idéologie qui se trouve, de quelque sensibilité qui se trouve, ça me paraît important de s'ouvrir aux autres. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait anachronisme, évidemment. Je pense que ceux qui ont réagi et en disant, mais tiens, le pôle 2 ne se trouve pas là, j'y pense qu'ils ont très regardants du point de vue de l'histoire. Mm-hmm. Parce que à l'endroit où se trouve effectivement, on a remis il y a quelques jours le monument
équestre
de le pôle 2, se trouvait Albert Ier.
Voilà.
Et Albert, le pôle 2 se trouvait en face du palais des Nations, l'actuellement bureau du président où se trouve
le mausolée Laurent-Désiré Kabila.
Bon, cette réaction est une réaction aussi intéressante de la population, de la société, qui peut aussi en même temps, et si vous voulez, et de manière démocratique, répondre à un certain nombre de gestes du politicien. Et puis, en ce moment-là, ça permet aussi de voir, mais tiens, qu'est-ce qui peut correspondre, et non pas seulement à l'histoire, mais aussi au goût, à la sensibilité, à l'appréciation de la société. Et moi, je ne trouve pas de mal si on l'a remis. C'est pour peut-être aussi répondre aux vœux et aux attentes de la société. Peut-être qu'un peu plus tard, nous pouvons ensemble voir où... Parce qu'il y a en fait une étude qui existe, hein, qui va. Il y a eu déjà des travaux pour savoir où, dans quel site peuvent reposer finalement ces monuments. C'est une question qui relève évidemment de l'autorité aussi, mais l'autorité peut se servir aussi de ses services spécialisés pour pouvoir répondre à certaines exigences. Donc, mais il ne revient qu'à l'autorité aussi. Hein. Donc,
professeur Ibrouilla, cette émission est ouverte au public par téléphone interposé de toute la République, du monde entier. On reçoit des appels de Nice, de Paris, d'ailleurs, des États-Unis et tout. Il y a Mwamba Kanku qui nous appelait de Kananga tout à l'heure et qui s'interroge. Pourquoi penser seulement à réinstaller les monuments du monarque? Nous, dans les Kassai, nous voudrions qu'on érige pour nous les monuments des premiers Allemands qui sont arrivés dans notre province. C'est une question de Kananga.
Écoutez, je pense que le ministère de la Culture des Arts a tout un programme là-dessus. Hein. Ce n'est pas évidemment à moi de répondre à une telle question, mais si je puis lire entre les lignes, il y a tout un programme, et d'ailleurs, à l'occasion, lorsque son Excellence a dû répondre à un certain nombre de questions aux journalistes qui étaient présents lorsque on a remis le pôle 2 et à la gare centrale, il a montré qu'il y a, c'est un processus, qu'il y a deux monuments coloniaux qu'il faut réhabiliter, mais qu'il y a aussi d'autres monuments, notamment il a fait allusion aux anciens présidents de la République, notamment le président Kassavubu et le feu président Mobutu. Et d'ailleurs, il y a une mission qui s'en va. Il y a quelques jours, j'ai appris à la radio par la presse qu'il y a une mission qui va partir dans le village du feu Kassavubu où est en train d'être érigé le monument.
Donc, je confirme, le mausolée est en train d'être érigé. Il y avait eu un premier projet, c'était tellement petit, ça ne répondait pas à la grandeur de l'homme. Ouais. Il y a un mausolée digne, à la hauteur du personnage qui est en train d'être fait.
C'est ça. Donc, il ne faut pas... le ministère ne peut pas faire tout à la fois. Mmh. Il amorce un processus qui va se poursuivre. Et s'il y a des idées, évidemment, comme celle-là qui vient du Kananga, eh bien, ils peuvent le transmettre au ministère de la Culture et des Arts. Et je pense que les spécialistes qui entourent le ministère de la Culture et des Arts sont là pour rendre opérationnel de tels projets. Donc, mm-hmm. Ils ne peuvent qu'être apaisés parce que c'est une porte ouverte et Son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, a déjà amorcé le processus.
On va peut-être demander à Jody si on peut essayer de joindre le ministre de la Culture pour qu'il réponde à certains articles de presse qui estiment que le ministère de la Culture et des Arts a été sommé de sursoir la réhabilitation des monuments coloniaux, parce qu'il n'y a que lui qui peut répondre à cette question-là. Vous l'avez appris, vous l'avez lu dans la presse aussi, non, professeur?
Mais écoutez,
que l'opération aurait été suspendue.
Je n'ai pas, de manière explicite, lu ces articles, mais oui. j'ai appris.
On va essayer peut-être de tenter d'appeler le ministre de la Culture. En attendant, on va écouter une réaction des auditeurs à ce sujet.
Je m'appelle Bunga, je suis honorable d'élu de Bunga de l'Assemblée nationale, député. Et en fait, c'est une idée généreuse qui fait preuve d'une honnêteté morale et intellectuelle appréciable. Parce que l'histoire, madame, on ne peut la falsifier. Il faut la rendre et la considérer comme telle, avec ses hauts et ses bas, et avec ses coups d'éclat, éventuellement avec ses zones d'ombre. Je pense que c'était arbitraire, cette décision qui a fait déboulonner ces vestiges de l'histoire. Parce que la conséquence, c'est que beaucoup de jeunes Quinois n'ont pu voir de visu ces monument dominant personnage de l'histoire qu'ils ont découvert à travers le cours de l'histoire. À mon avis, ces endroits auxquels doivent être replacés ces monuments ne comptent pas. L'essentiel et le plus important, c'est qu'on les remette en même temps qu'on pense à ceux des Congolais qui n'ont pas encore de monuments malgré ce qu'ils ont fait. Je pense notamment à Kassavubu et à Mobutu. Enfin, j'estime tout de même que le ministre devait tout au moins soumettre cette discussion au Parlement pour obtenir son soutien moral. C'est quand même une note significative de l'histoire qu'il veut marquer. La vie, l'Assemblée nationale aurait pu donner un peu plus de poids à son idée. Et bon, écoutez, nous réservons le droit de les convoquer à l'Assemblée nationale pour une question orale à ce sujet.
Voilà, un député qui réagit. Vous voulez donner un point de vue, une réaction à la réaction, professeur Ibogo?
Tout de suite, je dirais que et ça ne relève qu'au pouvoir. Je pense que c'est une question délicate à laquelle je ne peux pas répondre à ce stade. Mm. Et parce que, comme le dit son honorable, c'est des questions de haute portée et politique. Mm-hmm. Et donc, je laisse au pouvoir.
Aux politiciens.
Je ne suis que scientifique.
Je m'adresse aux scientifiques. Alors, j'ai eu l'honneur de visiter le musée, l'Institut des musées nationaux au Mont-Galima. J'ai eu l'honneur de visiter les salles d'exposition qu'il y a à l'Académie des Beaux-Arts. Je dois avouer que j'avais les larmes aux yeux, notamment quand j'étais au Mont-Galima, lorsque j'ai vu recouvert de poussière une multitude d'œuvres d'art qui sont là-bas. Pourquoi c'est dans cet état?
Écoutez, merci d'être l'un des défenseurs. Vous faites les plaidoyers pour l'Institut des musées nationaux, pour les collections nationales. Vous savez que l'Institut des musées nationaux, d'ailleurs bientôt nous allons fêter les 35 ans de son existence, les musées nationaux ont été créés le 11 mars 1970. Et à l'orée, je pense, du pouvoir de Mobutu avec sa philosophie de record d'authenticité.
Voilà, il faut le dire.
Et c'était juste à titre provisoire qu'on a installé ces collections nationales, ainsi des musées nationaux. Mais le provisoire dure trop.
Il a duré
35 ans et nous sommes toujours dans des entrepôts,
voilà,
hein, dans des réserves.
Voilà.
Avec espoir, et ben j'ai utilisé souvent la métaphore qui est la suivante. On a été dans l'arrière-pays et dire à nos ancêtres, eh bien vous allez les loger au palais présidentiel au Mont-Galima aux côtés du président Mobutu. Mais au lieu de les loger dans le palais présidentiel, on les a logés dans les entrepôts. Et jusqu'à maintenant, ces ancêtres reçoivent des gouttes de pluie.
Voilà.
Et
de fortes chaleurs et de la poussière.
Ils ne sont pas dans l'état de meilleur ou de conservation optimale. Mmh. Mais néanmoins, il faut ajouter que les collections nationales sont
sont rangées telles qu'elles sont visitables, et présentables. Et seulement les entrepôts, les hangars ne sont pas
assez larges,
donc on a besoin d'un peu plus d'espace. Voyez, et ça relève aussi que du pouvoir politique. Son honorable qui est intervenu aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent aussi inscrire au Parlement et à des instances supérieures la problématique de la construction d'un musée véritable pour ce pays. Et nous n'avons pas à proprement parler un musée dans ce pays.
Il faut dire que beaucoup d'œuvres, aussi bien musicales que notamment architecturales et ou même des statues sont nombreuses à l'extérieur, notamment au musée de Bruxelles, un musée qui se trouve en Belgique. Et lorsqu'on veut réclamer ces œuvres-là, les Belges disent « mais vous, on est prêt à vous les donner, mais où est-ce que vous allez les conserver ?»
Oui, c'est souvent la réponse qui est donnée, mais je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans le sens de vouloir reprendre ce qui se trouve au musée Tervuren quand nous ne sommes
pas en mesure.
Mais c'est une autre question.
Oui, évidemment.
Je pense que les collections nationales doivent avoir son propre musée. Et ça, c'est
Est-ce que vous militez pour ça? Est-ce que vous militez pour ça?
Absolument. Nous luttons pour ça. Des projets existent, et même d'ailleurs le ministère de la Culture est inscrit, c'est une des préoccupations de son Excellence actuellement. Je pense que c'est une question qui devra à un moment donné être résolue. Nous pensons et nous avons la foi que ce pays aura son musée. Pour preuve, nous avons une concession entre le temple du centenaire et le palais du peuple. Cette concession a été octroyée à l'Institut des musées nationaux pour y construire
c'est bien situé.
Un musée. C'est bien situé. Mais seulement, il faut mettre en valeur cette concession. Il faut devoir commencer et démarrer parce que, eh bien, vous savez qu'ici, dans notre ville, on ne laisse pas toujours un espace vide très longtemps.
Et surtout longtemps. Un espace comme celui-là.
Comme celui-là, il est toujours et enfier, donc il faut aller au plus pressé, je pense.
On a un problème de conservation au regard du climat, nous sommes dans la zone intertropicale. Est-ce qu'au niveau de l'Institut des musées nationaux, vous développez les efforts pour former des conservateurs des œuvres d'art, des œuvres, j'ai vu, je sais qu'il y a eu une personne qui est partie à Bruxelles, qui a été formée pour notamment faire la reconversion des œuvres musicales, de l'analogie, le transfert. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour conserver d'autres œuvres?
Oui, je dois avouer que l'Institut des musées nationaux a en son sein des spécialistes et en diverses disciplines, et c'est des techniciens, des chercheurs et techniciens de très haut niveau qui ont été formés, évidemment, et pour l'Institut des musées nationaux. Et donc, lorsqu'ils sont pour la plupart évidemment fruits de la coopération, vous savez qu'on avait une coopération structurelle intéressante entre l'Institut des musées nationaux et le musée royal de l'Afrique centrale. Et c'est grâce justement à cette coopération que la plupart de chercheurs et techniciens ont été formés dans les universités et d'Europe, Louvain-la-Neuve, où j'étais moi-même, et à l'ULB, en Allemagne, etc. Donc il y a un personnel hautement formé, et même dans des instituts spécialisés comme des instituts ICROM à Rome et à Niamey, etc. Donc il y a des spécialistes.
Ça rassure, du point de vue du professeur, d'un historien, Mwambakan Kou Kanjila de Kananga, qui a appelé tout à l'heure, qui continue, qui revient pour repréciser sa demande, qui suggère que les Allemands financent le montage des monuments de von Wissmann et Paul Pogge, les premiers Allemands qui ont exploré le Kassai, et aussi que soit érigé le monument de Kalamba Mukenge, le roi des Benalulua qui les avait reçus, c'est un souhait. Et puis il y a Philippe Mbomo de la province orientale qui s'en allait probablement. On voudrait que ces monuments, les statues coloniales notamment, soient réhabilités également dans les provinces. Tout le monde n'a pas la possibilité d'arriver à Kinshasa pour voir ces figures historiques. Il y a quand même un intérêt à regarder l'histoire.
Oui, mais tout ça, cet intérêt, il faut dire que si le ministre n'avait pas soulevé cette question, n'avait pas initié justement de regarder de près les monuments, je pense que ça n'avait pas soulevé autant de questions. Je pense que le ministère de la Culture des Arts a amorcé quelque chose d'extrêmement important.
Voilà.
Et au lieu de voir peut-être qu'on a blessé l'histoire, je pense qu'il faut saisir l'occasion, aider le ministère de la Culture et des Arts, approfondir la question, lui apporter des moyens et pour la faisabilité des temps de projet.
Voilà. Voyez, on n'aura pas l'occasion d'éviter cette question maintenant, professeur, parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Le souhait, le rêve, c'est qu'on érige un grand musée à la hauteur de la richesse culturelle de la RDC. On est d'accord?
Oui, ça c'est la... En tant que conservateur de musée, je pense que je serai le plus heureux le jour où je serai directeur de musée, d'un musée au cœur de Kinshasa.
Voilà, et nous en tant que chroniqueurs social et culturel, on viendra suivre évidemment. Merci beaucoup d'être venu, professeur Ibogo. Marcel, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve à cheval après plusieurs rencontres, plusieurs avancées. Vous avez sûrement des bonnes nouvelles à nous apprendre. Rendons-nous d'abord à Calémie pour faire le point avec notre confrère. François-Xavier Midé, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vous a rapporté comme carte postale au niveau du Nord Katanga en ce qui concerne la présence des mines antipersonnelles?
Ah, tout à fait Walter. D'après les données fournies à la fois par la MONUC, les ONG, les habitants vivant dans les villages, pour ne citer que ces sources, le tableau qui peint la situation sur les mines dans les 135 000 km² qui composent le district du Tanganyika montre, Walter, que le Nord Katanga reste encore une zone dangereuse. Certaines routes restent encore aujourd'hui au risque de me répéter. Certaines routes restent inaccessibles dans les villages à cause des mines dont vous avez parlé au début. Pour situer clairement les choses telles qu'elles se présentent sur le terrain, l'explication de Bian Yusing, coordonnateur de l'ONG Danchech Aid, tel que vous l'avez dit au début de notre entretien, qui se charge bien sûr du déminage au Nord Katanga, est assez précise à ce sujet. Si on écoutait Walter.
Sur le tableau, on peut voir où est-ce qu'on était avec le travail de DCA Meru. C'est Tanganyika, notre district, 135 000 km². Et on a trouvé beaucoup d'endroits avec des mines et des autres ordnances explosives, et des bombes, des mortaires. Calémie, et au nord vers Kabemba, vers Bendir. Même plus si on va à l'ouest, vers Nyonzu, vers Kabiyamae, Kyoko. Et certainement, la dernière chose qu'on a fait, c'est à Kabalo, parce que le front de ligne, c'était à Kabalo.
Bien, Nanjing, coordonnateur de l'ONG Danchech Aid. François-Xavier Mibé, lorsqu'on parle des mines antipersonnelles, c'est des engins militaires. Est-ce que l'état-major militaire des forces armées de la RDC est impliqué dans ces opérations?
Ah, ça, Walter, l'implication des phares d'effet, ça n'est une des questions préoccupantes. Je dirais même que les observateurs en cette matière notent que les mines sont une conséquence directe de la guerre. Dans les milieux où les affrontements ont eu lieu, la présence des mines est qu'on ne peut plus négligeable. C'est vrai, le témoignage du coordonnateur des Danchech Aid qui venait à peine de passer parle plus à ce sujet. Mais cette question sur l'implication des soldats dans la recherche d'une solution, c'est vrai, nous l'avons posée au commandant de la brigade de Calémie, le colonel Albert Abiti. D'après lui, les FARDC ont toujours collaboré étroitement avec la MONUC pour trouver une solution durable au problème causé par les mines. Retrouvons le colonel Albert Abiti.
Le chemin supérieur m'a donné quelques indications du côté de Nord Luguga, à Nyuz. Il y a une équipe qui est partie là-bas justement et il a eu la mission de voir comment faire tout pour localiser ces endroits-là de manière à passer au déminage. Les mines sont des armes que nous appelons armes à action psychologique, ça détruit vraiment le moral des militaires, même de la population. On ne peut pas laisser les mines comme ça, sinon ça serait une mauvaise chose. Nous avons fait surtout avec la Monique, nous avons détruit les bombes qui traînaient par-ci par-là. Et de la même façon, s'il y a des mines, ici il y a des champs de mines qu'on va localiser, on va le faire avec la Monique, ça va bien se passer.
Et voilà, on va revenir sur cette question avec Marcel Thirion tout à l'heure, qui coordonne au niveau de la MONUC, au niveau des Nations Unies, évidemment, les actions contre les mines antipersonnelles. Mais François-Xavier Mibé, tout le monde espère ne jamais marcher sur une mine, mais quand on marche dessus, on on ne les prévoit pas. Et malheureusement, les conséquences sont énormes. Ça pose un problème de santé. Est-ce que vous avez, au niveau de Calémi, dans les hôpitaux, notamment des structures pour répondre à ce problème de santé?
Bien sûr, Walter, les mines constituent un véritable problème de santé, comme vous venez à peine de le dire. Quelqu'un a même déclaré qu'on sait où il y a des mines, où il y a des blessés. Votre question nous renvoie pour comprendre qu'il s'agit bien de parler des problèmes causés par les mines, et surtout de l'apport du corps médical aux victimes. C'est vrai que, d'après les données médicales, le nombre de blessés par mine a diminué dans les centres-villes, je me situe ici à Calémi, mais le problème reste encore posé au village de l'intérieur. Le médecin inspecteur du district du Tanganyika, docteur Okitakoy, trouve que, d'après lui, dans les zones dangereuses, la solution se trouve au niveau de la sensibilisation préventive, ainsi l'éducation de la population vivant avec les bombes, les engins non explosés est très importante pour limiter les dégâts, si on l'écoutait.
Si nous prenons le nombre de gens qui sont victimes de ces mines par rapport au dénominateur qui est la population entière de notre district, jusqu'à aujourd'hui, les blessés par mine ne constituent pas un problème de santé publique dans notre district. Et comme on sait qu'il y a des mines quelque part, sûrement qu'un jour, on aura des cas qui vont sauter sur les mines. Et donc, pour nous, il faut la prévention. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse les enlever, qu'on sensibilise les gens pour dire qu'à tel endroit, il y a des mines, que les gens ne puissent pas y passer. Et la finalité, c'est qu'on arrive à enlever toutes ces mines parce que c'est un danger potentiel pour la santé de la population.
Voilà, au-delà de la santé, il y a l'impact socio-économique de la présence de mines. Si c'est le père le chef du ménage qui a marché sur une mine, ça veut dire que c'est la personne qui nourrissait toute une famille qui s'en va. Si c'est une personne sur laquelle reposaient tous les espoirs de 3, 4, 5, 6 familles, et ça fait un grand problème de crise économique qui s'annonce, François-Xavier Midé.
Ah bien sûr, vous l'avez très bien dit, Walter, sauter sur une mine, c'est un problème qui affecte toute la famille. Et c'est là même la grande question. L'impact des mines sur la vie des habitants, bon, et plusieurs sources disent même que la plupart des victimes sont des personnes qui ne sont pas des véritables poseurs des bombes. L'observation faite par le coordonnateur de Dan Church Aid, Bayan Housing, qui passe lui plus de temps sur le terrain et qui a accepté d'ailleurs de se joindre à nous, est beaucoup plus éloquente. Mais avec lui, nous espérons que nous serons davantage sur les projets de financement et l'implication des pays donateurs pour nettoyer les zones dangereuses, pour trouver enfin une solution définitive, mais une solution durable aux problèmes causés par les mines et surtout les conséquences qui en découlent. Et si on écoutait un tout petit peu là le coordonnateur de Dan Church Aid.
Là, on va avec notre question, quelles sont les choses démolies par les mines? Et c'est certainement les petits villages avec des pauvres qui veulent aller dans leurs champs. C'est l'élevage aussi, c'est les gens qui veulent avoir le bois pour le chauffage, et aussi pour les pêcheurs, il y a des problèmes. Un peu plus que la moitié des premières victimes de mines qu'on a eues étaient actuellement les femmes. Et il y a beaucoup d'enfants aussi, parce que c'est souvent les femmes qui vont dans la brousse, qui vont dans la forêt pour avoir des choses. Et quand on voit les victimes de mines, c'était pas beaucoup de soldats, c'était les civils partout. Les mines sont ici après la guerre et les victimes sont des civils.
Voilà, on vient d'entendre monsieur le coordonnateur de Dan Church Aid, François-Xavier Midé. Merci beaucoup pour avoir fait avec nous le point. Pour le Nord Katanga, merci beaucoup et surtout faites très attention à vous hein, quand vous marchez dans les villages où on a signalé peut-être un danger de mine.
Merci Walter, nous allons prendre beaucoup plus de précautions, je l'espère.
Merci, au revoir. Marcel Quirion, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez le projet au niveau des Nations Unies, actuellement ici à RDC, en collaboration étroite avec la MONUC, pour mener les actions contre les mines antipersonnelles. La dernière fois que nous vous recevions ici, c'était à la veille des grandes rencontres sur cette question. Il était question notamment de déclarer les zones minées, il y avait quatre priorités à suivre. Comment ont évolué les dossiers?
Eh bien, je vous remercie parce qu'effectivement, je crois qu'il était important de faire le point après ces grandes rencontres, c'est-à-dire le sommet de Nairobi que vous évoquez, qui s'est tenu à la fin du mois de novembre. Je dois dire que les résultats sont positifs.
Ah.
Bien sûr, rien n'est jamais terminé, hélas. Mais les résultats positifs, la première chose que je voudrais mentionner, c'est la prise en compte au niveau de la présidence de la République du dossier du problème posé par les mines. Et je crois que là, c'est tout à fait significatif d'une volonté de participer à la résolution de ce problème. C'est également la déclaration des zones minées qui a été faite. J'entendais votre correspondant à Calémie qui parlait de l'implication des FARDC. Nous avons pu rencontrer le chef d'état-major général, le général Guy Saint-Pierre, et nous avons eu communication, la communauté internationale a donc eu la communication des zones minées, y compris celles qui avaient pu être minées par les forces gouvernementales à l'époque de ces conflits. Donc il y a vraiment un investissement, une volonté de participer à la résolution du problème.
Alors, par rapport à tout ça, il y a cet autre aspect qui est assez important. Vous l'aviez déjà dit un jour, c'est que une mine, elle est posée, elle reste là pour plus de 30 ans, par exemple, et ça fait un danger permanent pour des générations qui n'ont pas posé ces mines. Ils sont victimes des actes qu'eux n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas souhaité. Est-ce que vous avez pu savoir, déceler, où se trouvent les stocks de mines les plus importantes au Congo?
Alors, en ce qui concerne les stocks de mines, et dans la suite, d'ailleurs, de ces déclarations, dans la prise en compte par la présidence de la République, une première déclaration a été faite, et je souligne le mot « première déclaration » a été faite avant la conférence de Nairobi. Les mines qui étaient détenues et sous contrôle des autorités gouvernementales ont été déclarées. Il est évident que l'historique de ces conflits fait apparaître qu'il y a une dissémination de ce petit stock. Je prendrai pour exemple la 9e brigade, la 9e région militaire, pardon, où le général Padiri a remis spontanément, en vue de leur destruction, une centaine de mines à l'ONG Handicap International, début décembre,
à Kisangani.
Maintenant, le général Boudjamabe, à Bukavu, qui également remet aux Nations Unies, pour destruction, des munitions non explosées et des mines antipersonnelles. Cela ne fait que confirmer l'existence de ces petits stocks disséminés à travers le territoire. Je dois mentionner également, à travers le plan DCR qui se déroule en Ituri, les miliciens qui rapportent des mines antipersonnelles. Nous avons jusqu'à ce jour détruit plus de 200 mines antipersonnelles qui avaient été déposées avec les armes par les miliciens. Donc, oui, la déclaration de stock a eu lieu, mais c'est à nos yeux une première déclaration. Il faut continuer ce travail d'inventaire, il faut continuer de sensibiliser les autorités militaires pour que la pleine mise en application de la Convention d'Ottawa qui prévoit la destruction des stocks soit effective.
On a appris qu'à Lubumbashi, il y aura une destruction d'arbres par une action menée à la tête du pasteur Mulunda.
Oui, bon, la destruction des armes n'est pas dans notre secteur. C'est bien sûr, c'est un ensemble. Les mines antipersonnelles sont des armes, mais nous ne suivons pas directement la destruction des armes, je dois le dire très clairement.
Oui, tout à fait. Une des zones les plus critiques, c'était évidemment Ikela. Est-ce que, à un moment donné, il y avait même plus d'opérateurs, des mineurs vers Ikela? Est-ce que les opérateurs ont repris à s'intéresser à la situation de Ikela?
Eh bien, je vous disais qu'il y avait de bonnes nouvelles à communiquer et Ikela correspond vraiment pour nous à une échéance tant attendue par la population. Nous avons pu mettre en place une organisation d'éliminage humanitaire international, une ONG, je la cite bien volontiers, MANG, qui est une ONG anglaise, qui, avec l'aide de la MONUC pour sa mise en place, est arrivée la semaine dernière à Ikela, avec un financement de ECHO en vue de dépolluer la ville d'Ikela. Il est évident que ça sera un travail très long. Il faudra sans doute envisager des financements complémentaires de façon à ce que le travail qui va être réalisé puisse s'étendre sur les environs immédiats d'Ikela.
Mais là se pose le problème, c'est l'assistance aux victimes. Est-ce qu'il y a un programme parallèle par rapport à ça? Parce qu'entre-temps, il y a eu des victimes et il y en aura peut-être encore avant que tout ne soit déminé.
Bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je soulignais l'implication des autorités nationales au niveau de la présidence de la République. C'est la nécessité qui apparaît d'établir un plan d'action national qui prenne en compte tous les aspects de la lutte antimine, dont l'assistance aux victimes fait partie. Ce sujet, vous le saviez, nous en étions entretenus déjà, est un sujet très important pour nous. À ce titre, je dois déjà mentionner que nous allons avoir une mission d'assistance de New York, de l'Organisation des Nations Unies en charge du problème des mines, qui va venir passer 2 semaines à la fin du mois de février, pour nous aider. C'est-à-dire à la fois notre structure, mais aussi les autorités nationales, à établir un plan d'assistance. Il y a un déficit. Déficit d'information déjà sur quels sont les moyens disponibles, et je crois que c'est la première démarche. Mais ce problème de l'assistance aux victimes également évolue positivement. Vous voyez, c'est une journée de bonnes nouvelles. Nous avons maintenant pu rencontrer la présidente du Fonds social de la présidence de la République, et il y a un partage d'informations, c'est-à-dire qu'il y a accès aux informations sur les victimes militaires à la suite d'un accident par mine, et ce qui va nous permettre de prendre la réelle dimension des problèmes en nombre de victimes, mais prendre également la réelle dimension des capacités d'intervention, c'est-à-dire prendre en compte ces capacités avec les installations militaires qui sont dédiées à la réhabilitation de ces victimes. Donc de grands progrès, mais beaucoup reste à faire.
Beaucoup reste à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire qui fait quoi par rapport au programme anti-mine, qui fait quoi, où, et est-ce qu'il y a la participation de la communauté congolaise?
Alors, en ce qui concerne ce petit tour d'horizon dans un pays qui est si vaste, donc sous la coordination du centre, qui, je le rappelle, est maintenant présent depuis 3 ans, puisqu'il est arrivé le 31 janvier, donc c'est presque une date anniversaire aujourd'hui, je vais mentionner en premier les opérateurs du terrain, parce que c'est eux qu'il faut saluer, ceux qui au quotidien, finalement, prennent des risques mesurés, certes, pour dépeuvler le territoire national. Je citerai par ordre d'ancienneté Handicap International, qui depuis l'année 2001 est à Kisangani et qui continue de travailler avec efficacité, avec une réelle disponibilité. Un exemple, une nécessité d'élaguer des arbres dans la zone aéroportuaire pour le bénéfice de tous, aviation de la MONUC mais aviation civile également, sur préavis de 24 heures, Handicap International s'est engagé spontanément, sans état d'âme. Donc Handicap qui est sur Kisangani. Nous avons également la Fondation Suisse de Déminage qui, après avoir passé près d'une année à Bounia, est descendue fin janvier à Baraka, dans le sud Kivu, et qui déjà, nous avons d'ailleurs pu le lire dans la presse, a entrepris la destruction de plus de 160 obus, qui étaient donc ces munitions non explosées terriblement dangereuses.
40 secondes.
Nous avons DCA, qui est dans la région de Kalemi, et qui va démarrer, je tiens à le souligner, la formation des mineurs à compter du début du mois d'avril. Nous avons la compagnie Mekem qui travaille au profit de la MONUC et bien sûr au profit de tous, puisque c'est grâce au travail de Mekem de dépollution que les ingénieurs de la MONUC ont pu réhabiliter la route entre Bounia et Bénis, qui correspond bien sûr à un axe essentiel et qui continue ce travail dans l'Ituri.
Quelle est la part de... Il y a un autre opérateur ?
J'ai peur d'en oublier, donc que ceux que j'oublierai me pardonnent, mais je pense avoir cité MAG, qui est tout également à Pueto, donc pas seulement à Ikela, mais également à Pueto, dans le Katanga.
Ok, mais est-ce que la communauté congolaise participe ? On va revenir...
Alors, la communauté congolaise, mais je crois que ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Quelle est la part de la
RDC ? Il y a une volonté de former des démineurs militaires humanitaires, des contacts ont été pris au niveau du sommet de Nairobi, mais je pense que c'est une mission qui mériterait d'être faite, et pourquoi pas avec des membres du gouvernement qui sont directement impliqués dans ce dossier.
Ça, c'est le dossier à suivre. Les auditeurs savent. Marcel Kérion, merci beaucoup.
Merci beaucoup, parce que je crois qu'il est important de faire le point à chaque fois.
Absolument. Marcel Dombomba, là, c'est mon confrère ici à Radio Okapi. Il a rencontré près de 16 000 réfugiés congolais, candidats au retour volontaire au pays avant les opérations de recensement. Il faudra qu'ils soient ici 3 mois avant les opérations pour qu'ils puissent voter, évidemment. Marcel Gombo a fait le voyage avec les représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il a été dans cette sous-préfecture de Bétou. Marcel, bonjour.
Bonjour, Walter.
On le sait, c'est au Congo-Brazzaville qu'il y a ces 16 000 réfugiés congolais qui souhaitent revenir au pays. Vous les avez rencontrés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer Bétou ?
La sous-préfecture de Bétou se trouve à l'extrême nord de la République du Congo. Elle est limitée au nord par la République centrafricaine et à l'est par le fleuve Ubangi et la République démocratique du Congo. S'il faut peut-être dire un mot sur sa population, il est estimé à plus de 25 000 personnes.
Voilà, c'est ces 25 000 personnes, si vous voulez, obligées de cohabiter avec les réfugiés qui étaient venus de la province de l'Équateur depuis l'an 2000. Est-ce que la cohabitation s'est passée sans heurte ?
Au départ, ce n'était évidemment pas facile pour toutes ces familles de réfugiés de trouver où s'abriter. Pour toutes ces personnes qui ont traversé le fleuve Oubangui pour se retrouver de l'autre côté, il n'y avait que la forêt et il fallait trouver en pleine forêt un endroit pour s'abriter soi-même et éventuellement les membres de sa famille. Si quelques-uns ont pu avec le temps rejoindre le centre de Betou, beaucoup d'autres sont restés vivre dans des villages situés aux abords du fleuve. D'ailleurs, à ces jours, on compte plus de 39 sites de réfugiés disséminés le long du fleuve Oubangui.
Ces réfugiés sont là-bas, on le sait, mais ils ne sont pas abandonnés. À leur triste sort, il y a des organisations humanitaires qui les assistent. C'est le cas du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Le HCR est bel et bien arrivé pour apporter son assistance, mais il s'est posé pas mal de problèmes d'ordre logistique, comme nous l'explique Patrick Bozoka, assistant terrain protection HCR Betou.
Les réfugiés sont arrivés dans notre zone d'administration au niveau du HCR Betou vers juillet 2000. Et finalement, quand ils sont arrivés, le bureau s'est installé au mois de novembre 2000. L'ordre de gens, ils étaient autour de 30 000. Bon, quand ils sont arrivés, nouvellement, ils n'étaient pas encore recensés. Ils ont été recensés il n'y a pas longtemps, en juin passé, juin 2004, qu'ils ont été recensés. Nous sommes tombés à 18 000. Vous savez bien, la zone où le bureau de Betou se trouve, c'est une zone marécageuse. Donc finalement, l'accès au niveau des sites, ce n'est que par moyen nautique. Donc, on a eu ces difficultés. On a eu des difficultés d'ordre logistique, d'évacuation de matériel d'assistance aux réfugiés de Brazzaville jusqu'à notre niveau à Betou, qui se trouve vers la frontière avec la RCA à l'extrême nord du pays. La nature de l'assistance, pour un premier temps, c'était de permettre aux réfugiés qui avaient fui leur pays pour des raisons de combat et les assister en abri, les assister en matériel de première nécessité. Ce qu'on leur donnait, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon des non-food items, c'est-à-dire qu'on est des NFI, c'est ce qu'on leur donne. Il y a parfois des machettes, des marmites composées, ce que nous appelons des kitchen sets, des plastic sheeting, des bâches pour leur permettre de faire des abris, c'est ça.
Monsieur Patrick Bazoka, assistant terrain chargé de la protection au bureau du HR à Betou, au Congo-Brazzaville. Marcel Bazoka, Patrick vient de nous parler de l'arsenal d'aide qu'ils ont apporté à nos compatriotes réfugiés au Congo-Brazzaville. Est-ce que cette aide a soulagé, dans la mesure du possible, leurs conditions de vie?
Pour de nombreux réfugiés, cette aide ne représentait pas grand-chose. Ils auraient souhaité beaucoup plus que ça. Par exemple, pour ceux des réfugiés qui habitent les villages, on leur remettait des bâches, machettes ou pour faire la culture et à d'autres du nylon pour faire la pêche. Mais il n'était pas aussi facile pour eux de trouver des terres à cultiver. Ou alors, si on en trouve, il faut chaque fois payer quelque chose au propriétaire de la terre.
Mais c'est la rente, c'est dans nos coutumes africaines.
Mais ça a posé pour eux des problèmes parce qu'ils n'avaient pas de l'argent avec eux.
Okay, voilà. Oui.
Et donc, la cohabitation dépendait d'un endroit à un autre, comme qui dirait, à chacun sa chance. Et pour ceux qui étaient dans le centre de Betou, les réalités sont bien différentes. À l'exemple de cette veuve originaire du secteur de Dongo dans les territoires du Congo qui nous relate son expérience. On l'écoute.
Soutien moi quand on peut qu'il y a copé ça va faire les locaux bois parce que moi la langue locaux mon côté après c'est un tétan d'ingé babanda qui s'occupe na va venir à bloquer va faire celle la jure locaux mon côté haché ngai moi quand les forts ngai le roi timbe a zoomé comme un baya y a moi la zoomé forcé que ça va macala la zoomé ma vanité le roi la zoomé basique la zoomé perdre tétan ngai pour la tiki nzété ngai la lucuna il faut la zoomé la bouton là comme mango commanda quoi le bina tango la tiango la foule na ça macala et là quand il y a des difficultés na mboka va tous en agacer tant monsieur sur mon colombo kaku qui qu'on néglige que ça réfugié.
Marcel, un résumé en français pour ceux qui n'ont pas compris le lingala.
En fait, Walter, cette femme, c'est une veuve, comme je le disais, qui est venue du secteur de Dongo dans les territoires du Congo. Alors, elle dit que pour elle, elle n'était pas d'accord pour quelques machettes, quelques marmites que le HCR leur avait remis. Donc, pour elle, il fallait beaucoup encore plus d'assistance. Alors, elle, pour faire face à la vie de tous les jours, elle vend du bois, parce que dans le centre de Bétou, il y a une société d'exploitation du bois. Alors, cette femme prend ces bois-là pour faire de braises, et puis vendre ses
braises. Les bringues.
Exactement, pour faire de, donc elle vit de ça. Mais elle dit que pour elle, on peut rester autant de temps qu'on veut dans ces pays-là, on restera toujours étranger. Alors, la meilleure des choses, c'est de rentrer au pays pour qu'on soit en liberté.
Elle finit par dire qu'elle a vraiment, vraiment envie de revenir au pays pour être libre.
Elle n'attend que ça. Pour elle, elle nous a même laissé entendre, elle est prête. Si on lui disait c'est pour demain, elle va rentrer demain. Donc, elle n'attend que ça.
À part le HR, est-ce qu'il y a d'autres agences humanitaires qui interviennent pour apporter assistance aux réfugiés, nos compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville?
Il y a en effet MS France, Médecins Sans Frontières France, j'allais dire, et URC.
Qui IRC.
IRC,
International Rescue Committee.
Merci Walter. Qui ont deux postes de santé à Bétou et à Liboko. Liboko est en fait un des sites pour réfugiés situés le long du fleuve. Le Médecins Sans Frontières dispose également de 10 cliniques mobiles desservant hebdomadairement les axes fluviaux. Il faut également signaler que le HCR finance l'enseignement primaire et la construction de latrines dans les sites de réfugiés. À noter aussi que l'enseignement secondaire est dispensé, notamment la section pédagogique et par des enseignants réfugiés. Ça, il faut les souligner, des enseignants réfugiés, des Congolais qui donnent cours là-bas.
Et voilà, donc à l'heure actuelle, on peut noter que la plupart des réfugiés veulent bien retourner dans les différentes localités d'origine, ils sont à peu près 16 000. Est-ce qu'ils ont certaines appréhensions, inquiétudes par rapport à leur retour, Marcel, parce que vous les avez rencontrés?
À ce sujet, je vous laisse plutôt suivre un des représentants de réfugiés de Bétou, on l'écoute.
Que les gens qui vont quitter ici, nos enfants qui quitteront ici pour aller en RDC, puissent s'intégrer dignement, comme tous les autres écoliers en RDC. Deuxièmement, nous avons un problème d'accès à la santé. Vous savez, la santé est prioritaire. Et le troisième problème, le problème d'accès aussi à l'eau potable. L'eau, c'est quand même une source de vie. Normalement, quand nous serons là-bas, on ne sait jamais si les puits qui ont été dévastés par la guerre sont déjà remis en cause. Et on a quand même remédié à toutes ces situations. Alors, d'autres problèmes, c'est quoi? Le problème de réintégration sur le plan social. Quand nous allons quitter ici, arriver là-bas, parmi nous, il y a des agriculteurs. Est-ce qu'on aura quand même les semences en grande quantité, le machette? C'est ce qui fait à ce que nous puissions survivre ici à Bétou. Alors, une fois arrivés là-bas, nous savons que c'est notre pays, mais nous avons nécessairement besoin de cet appui afin que nous puissions redémarrer une fois la vie comme on était là-bas dans notre pays. Le souci de notre population, c'est de retourner aussi un jour. C'est parce qu'on ne peut pas rester éternellement réfugié, comme on avait dit autrefois. Nous avons souci aussi de retourner chez nous. Peut-être un jour, on va aussi construire notre pays.
Voilà, un réfugié qui a hâte de revenir au pays pour participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Marcel, merci de nous avoir ramené ces témoignages, cet espoir de retour au bercail, à la maison. Est-ce que ça sera la terre promise? Oui, c'est la terre promise, quelles que soient les conditions, de toute façon. On est mieux chez soi, non?
Voilà, on va
bon,
dire.
Allez, merci Marcel, à bientôt.
Merci, au revoir à tous.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée. Okapi, active pour la paix.
À peu près 16 000 compatriotes qui sont en refuge dans la localité de Bétou au Congo-Brazzaville sont prêts à revenir au pays en République démocratique du Congo. C'est principalement dans la province de l'Équateur. Nous l'avions dit, une mission du HCR avec d'autres partenaires, dont Radio Okapi. Ils ont effectué cette mission à Bétou. Et puis, ils ne se sont pas limités à Bétou. Ils sont partis à Bétou, en fait, pour aller parler avec les réfugiés de leurs conditions d'accueil au pays. Et pour parler de cet aspect des choses, nous recevons en studio M. Jens Hazelmann. Bonjour.
Bonjour Walter, merci.
Voilà, vous êtes chargé des relations extérieures au niveau du HR. Vous avez participé à cette mission qu'on évoquait tout à l'heure avec mon confrère Marcel Gombo. Alors, nous parlons de ces déplacés. Est-ce que vous avez senti un désir de ces réfugiés à revenir au Congo?
Oui, comme Marcel a déjà dit, on a eu beaucoup d'entretiens avec les réfugiés au niveau Betou. Ils ont tous dit qu'il y a un fort souhait de rentrer, mais il y a aussi des craintes sur les questions pratiques, comme les écoles, les postes de santé, l'assistance et tout ça. Mais en principe, on a écouté que tous les réfugiés veulent rentrer.
Alors, vous êtes allé faire un état des lieux, une mission d'état des lieux de différentes localité d'accueil. C'est dans quelle cité, dans quelle localité que vous avez été?
Voilà, c'est ça. Peut-être je veux d'abord dire que cette mission, c'était très important parce que c'est un signe du soutien de la communauté internationale pour les réfugiés qui veulent rentrer. Il y a la HR là-bas pour la protection et l'assistance. Il y a des partenaires bailleurs des fonds qui s'intéressent pour ce soutien-là, par exemple la Commission européenne, mais aussi les autres donateurs. On a déjà écouté des intérêt au part des autres pays européens, des États-Unis et tout ça. Mm. Bon, il y a beaucoup à faire dans les zones de retour. On a trouvé que les postes de santé, quelques postes de santé à l'école sont dans un mauvais état. Mm. Et on a déjà commencé à réhabiliter cette infrastructure. Vous voyez, la HCR est déjà présent sur le niveau Gemina Libenga. On va ouvrir un bureau au niveau Dongo. C'est juste en face de Betou. Mm. Et on est en train de commencer avec cette réhabilitation d'infrastructures basiques communautaires. Mm.
École, hôpitaux, centres de santé.
Voilà, c'est ça. Par exemple, au niveau à Gemina, on a déjà réhabilité un hôpital. Maintenant, il y a des gens là-bas qui peuvent recevoir des soins médicaux. On a réhabilité un part de cet hôpital. Il y a une école aussi à Gemina qu'on a réhabilité. Il y a des enfants réfugiés qui reçoivent déjà des enseignements et tout ça en même temps. La HDR fournit aussi des non-vivres, comme mon collègue de Beto a déjà dit, mm. aux rapatriés. Il reçoit un paquet de rapatriements, par exemple, compris par les bâches, les seaux, les kitchen sets, savon et tout ça. Et en même temps, on va fournir un paquet d'abris, parce qu'on a trouvé un grand problème là-bas, c'est la question de l'abri.
Oui, c'est comment? C'est constitué par quoi, ces paquets d'abris?
Il y a l'idée de ces paquets d'abris, c'est de donner les utiles aux rapatriés pour construire leur propre maison. C'est-à-dire, principalement, ce sont des utiles. Il n'y a pas des matériaux de construction, parce que ça, on peut trouver dans la brousse là-bas ou dans la forêt. Mm. Mais c'est de les donner la capacité de faire leur propre maison.
Comment?
Par exemple, des outils comme des machettes ou des
machettes,
oui. Voilà. Et des autres outils de clous, par exemple des clous de construction. Mm. Et avec leur propre travail, ils peuvent reconstruire leur maison. Bon, s'il y a des gens qui peuvent pas construire une maison, par exemple des rapatriés vulnérables, mm-hmm. ça arrive qu'il y a des femmes, il y a des personnes âgées, des enfants et tout ça. Ils ne peuvent pas construire leur propre maison. Mais pour eux, on va les aider avec une assistance spéciale pour l'abri. On va les assister dans la construction en plus pour qu'ils reçoivent un abri propre pour habiter.
Nous avons appris que dans les camps des réfugiés à Betou, il y a des réfugiés qui étaient enseignants et qui continuaient à enseigner dans les camps des réfugiés.
Voilà, c'est ça. On cible particulièrement les gens comme ça qui ont des qualifications et qui peuvent aider avec la reconstruction, avec un nouveau commence dans leur zone d'origine. Et ça c'est très très bien, ça c'est un bon signe si les enseignants qui étaient réfugiés retournent et aident leurs frères et sœurs de rentrer dans leur zone d'origine.
Est-ce que vous avez rencontré peut-être parmi ce groupe de réfugiés, ceux qui étaient déjà finalement, si vous voulez, intégrés à nos compatriotes africains du Congo-Brazzaville, des gens peut-être qui se sont déjà mariés là-bas, qui ne veulent plus revenir? Il y en a eu quelques-uns?
Toujours. I mean, le rapatriement, c'est une opération volontaire. Mm-hmm. Ça, c'est très important à souligner. Mm-hmm. Si les réfugiés à Congo-Brazzaville, ils nous donnent leur intérêt, leur souhait de rentrer, mm-hmm. on va les aider. Ça, c'est l'idée. Mm-hmm. On ne va pas forcer personne de rentrer. Mm-hmm. Bien sûr, il y a des personnes là-bas qui peut-être ont des contraintes pour pas rentrer, peut-être aussi des craintes de protection. Mm-hmm. Où ils sont se mariés là-bas, où ils veulent rester à Congo-Brazzaville. Et ça, enfin, il faut négocier aussi avec le gouvernement de Congo-Brazzaville, parce mm-hmm. que c'est une question des pays d'accueil, enfin, comment ils peuvent rester, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Mm-hmm. Mais le plus important pour l'instant, c'est d'aider les gens qui veulent rentrer maintenant. Mm-hmm. Et ça va passer pendant les années 7 ans, 2005, 2006, que ça va passer. Mm-hmm. Enfin, c'est une question de contraintes individuelles sur le retour, si les réfugiés ne peuvent pas rentrer. Au niveau Betou, on a écouté que c'est pas vraiment un problème la question de protection, mais au niveau des réfugiés d'Mfondo, on a beaucoup écouté de leur partie qui a des craintes de la situation sécurité dans leur zone d'origine, mais on est en train d'évaluer ça, par exemple la zone de Bomango en face de Mfondo, pour voir ce que sont vraiment les conditions dans cette zone-là. Et si on trouve il y a des contraintes, on va les informer sur ça.
Est-ce que c'est les localités d'accueil, ça va être ma dernière question, est-ce que c'est prêt pour recevoir ceux qui pourront venir et à quand les premières opérations de rapatriement de Betou vers le Congo?
Les zones de Libenge, Gemena et aussi Dongo, je crois, ils sont prêts pour le retour, ça c'est très très clair. Mm. Parce que là-bas, c'est vraiment une question d'améliorer les hôpitaux et écoles. Mm-hmm. Et enfin, c'est les réfugiés, les rapatriés, même ceux qui vont aider le développement de cette région. Mm-hmm. Et les zones, on a trouvé, ils sont vraiment prêts pour le retour. On a déjà commencé à réaliser l'assistance là-bas. Il y a des rapatriés qui sont déjà sur place. Ils nous ont raconté l'histoire que santé et éducation, c'est pas un problème pour eux. Mm-hmm. Et bon, avec ça, on va commencer l'opération de retour assisté au mois d'avril 2005, okay. Betou. Et on espère qu'on peut finaliser ça à la fin d'année 2005.
De la province de l'Équateur, pour en parler, en ligne depuis la province de l'Équateur, Askin Zigbia Tayoro. Bonjour Askin.
Bonjour Walter, bonjour à nos auditeurs.
Voilà, merci. Ici en studio, j'ai en face de moi Madame Lise Pilon. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous êtes chef du projet Innovative Resource Management par rapport à la reconstruction du pays, la révalorisation de toutes les potentialités économiques autour du fleuve Congo, c'est cela? Oui. On est bien d'accord. On va parler avec vous tout à l'heure, mais je vais faire le point avec mon confrère Mbandaka sur cette question des taxes en Mbandaka. Askin, dites-nous d'abord, comment sont perçues les taxes en Mbandaka?
Eh bien, Walter, les taxes sont obligatoires pour tous les opérateurs économiques. Les activités commerciales ne peuvent tourner que moyennant paiement de taxes. Cela permet à l'État d'assurer la protection et la sécurité des biens des contribuables. Et l'on sait qu'avec les recettes générées par la perception de taxes, l'État peut construire des hôpitaux ou des écoles, entretenir des routes et financer des projets de développement. Les taxes est donc une utilité non négligeable. Sortie par exemple de la guerre, la province ne peut que compter sur les recettes de taxes pour son développement. Mais le paiement de ces taxes pose de sérieux problèmes dans la vie de Mbandaka.
D'abord, avant d'arriver au vrai problème, quelles sont les différentes taxes que payent les opérateurs économiques en Mbandaka?
Il y a plusieurs taxes à payer, Walter. Les taxes dues par exemple à l'administration centrale et celles qui relèvent des entités administratives décentralisées. Il y a taxes du trésor public perçues par la DGRAD, Autre taxe, c'est celle perçue par la Direction générale des impôts. À cela s'ajoute les taxes perçues par les différentes divisions provinciales. Tous les services de l'État perçoivent des taxes, s'il faut le dire. Taxes d'étalage au marché, taxes de pirogue sur les pêcheurs, taxes d'utilisation des panneaux solaires, taxes d'exploitation des moulins à manioc ou à maïs, taxes sur taxi vélo, taxes de taxi moto, taxes d'accostage pour les embarcations, taxes sur la vente d'eau en sachet, taxes sur le commerce général. Donc autant de taxes perçues à l'Équateur.
Alors, Askin, qu'est-ce qui choque les opérateurs économiques dans la perception de ces taxes?
Selon quelques opérateurs économiques contactés, beaucoup ont souligné qu'ils payent près de 10 taxes ou même plus pour une même activité exercée. C'est trop selon ce qu'ils ont exprimé. Un commerçant que nous avons rencontré témoigne.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en français ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé tellement vite que même moi j'ai pas bien compris.
Je pense que s'il faut suivre ce qu'il vient de dire, il exprime que vraiment il y a trop de taxes qui sont perçues au niveau du marché. À tout temps, on voit les agents de l'État circuler pour percevoir et parfois pour une seule même activité. Voilà, c'est un peu le condensé de ce qu'a exprimé ce commerçant de Mbandaka.
Mais alors, avec autant de taxes, plus d'une dizaine sont perçues à l'intérieur de la province de l'Équateur et en Mbandaka même. À quoi sont destinées les recettes à magasiner?
Difficile, Walter, de savoir. Les autorités municipales disent utiliser les recettes pour des finalités administratives et sociales. Mais les populations ne semblent pas en être persuadées, parce qu'elles ne bénéficient pas en retour de recettes perçues. Bien que Mbandaka n'ont pas caché leur indignation quant à la gestion des recettes des taxes par ces gouvernants. On les écoute.
Et en ce qui concerne les taxes perçues à la mairie ou bien au centre-ville, nous ne voyons pas la finalisation de ces taxes. Surtout, si nous prenons les artères, les routes, nous avons cru qu'avec ces taxes, on pouvait réhabiliter soit le cas express l'avenir révolution, par exemple. On pouvait réhabiliter avec l'argent perçu. Prenons par exemple l'avenir révolution qui relie presque la totalité de la ville. Mais jusque-là, nous ne voyons pas ce que font ces taxes perçues. C'est peut-être le profit de ces gens qui perçoivent ces taxes.
Bon, taxes à l'État. Et bon, il s'appelle Moussala, l'État, tout le monde appelle Moussala, l'État, tout le monde a marché, tout a salité. Ou ici, on a besoin de salité. Bon, taxes à moi, l'État, mon nom est général. L'État, c'est mon nom, on a besoin de mettre tout cas, 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 on a besoin
de mettre tout cas, on a besoin de mettre tout cas, on a besoin de mettre tout cas, on a besoin de mettre tout cas, on a besoin de mettre tout cas, on a besoin de mettre tout cas, bango bazo bongisa banzela na bango bazo bongisa mwa bisika ba hopitala tamo ba couleur ba nimeso to tana mbanda ka nde mbanda ke do ba konja ngo bazo nyela ba go konji kaka po bazo ka nde taxi
kala bi ke mbonga zo kota mingi na ba taxi me musa moto zo mona mbanda ke zo sa mate tana banzela ndenge zali banzela mabelo ko moko ezate anto ka mbonga zo kota ele tambonga zo kota.
Voilà ce qu'on vient d'entendre. Ils perçoivent l'argent des taxes, mais on ne voit pas d'impact sur le terrain par rapport à la reconstruction. Mais Askin Zibia, quelles sont les conséquences, par exemple, du paiement de cette multitude de taxes auprès de certains opérateurs économiques en Mbandaka où vous vivez actuellement?
À vrai dire, Walter, la multitude de taxes étouffe certaines initiatives privées qui contribuent au développement de la province. Cas, par exemple, de chasseurs d'images, unique laboratoire de photos à Mbandaka qui a dû fermer, ou encore l'ONG La Genèse qui vient de retirer ses taxis-motos de la circulation à cause de cette multitude de taxes. Plusieurs commerçants ont du mal à progresser dans le commerce. À force de payer ces différentes taxes, ils ne réalisent pas le bénéfice escompté. Certains ont dû même abandonner le commerce pour faire autre chose.
Mmh. Mais les opérateurs économiques se plaignent d'une part, mais la taxe c'est quand même un devoir, non? Ils doivent payer les taxes, parce que la loi est dure, mais c'est la loi, comme dirait le latin, dura lex sed lex.
Tout à fait, Walter. Mais vous savez que dans nos entretiens avec les opérateurs économiques de l'Équateur, il n'est guère question de refuser de payer le taxe, mais il décrit plutôt le mode de perception de services de l'État.
Dites-nous, comment ça se passe, cette perception des taxes?
Généralement, les taxes sont payées une fois par an, selon qu'il s'agit des taxes annuelles, ce qui signifie que les commerçants ont au moins 12 mois pour s'exécuter. Mais ce n'est pas le cas. Certains, à peine installés, les services de l'État leur exigent la totalité de ce qui est dû à l'État en une seule fois. Une méthode qui ne tient pas compte des difficultés de vente que rencontrent les commerçants. Et d'autres taxes sont perçues chaque jour ou chaque mois.
Mmh. Donc, on a des problèmes. Et pour cette situation, donc, est-ce que les opérateurs économiques locaux ont essayé d'approcher les autorités pour discuter de la question? Parce que si les opérateurs économiques ferment leurs activités, l'État ne verra plus personne, ce qu'il peut aller percevoir des taxes. Donc, est-ce qu'on pense couper la poire en deux, comme on dit?
Oui, certains demandent l'annulation de certaines taxes qui pèsent sur une même activité commerciale. Ceci les aiderait à gagner tant soit peu de bénéfices en vue d'être à même de payer normalement les taxes. D'autres, par contre, exigent la suppression purement et simplement de taxes pendant cette période de transition. Ils demandent que le paiement de taxes reprenne après les élections. Monsieur Koundou, directeur provincial de la FEC, c'est-à-dire Fédération des entreprises du Congo, ne semble pas partager ce point de vue. Il propose une piste de solution. Écoutons-le.
Mon souhait majeur en est que les taxes doivent être perçues d'une manière légale et correcte et par voie de négociation. C'est-à-dire l'opérateur économique devant un service public de l'État doivent s'entretenir de sorte qu'ils trouvent un compromis d'ensemble pour qu'ils essaient de payer ces taxes d'une manière échelonnée pour qu'ils ne voient pas qu'ils sont asphyxiés vis-à-vis du service de l'État. C'est notre souhait depuis longtemps. Nous avions demandé et puis nous demandons toujours que toutes les taxes de l'État soient perçues dans un guichet unique. Ils payent une fois toutes les taxes de l'État et chaque service est en train de récolter ce qui leur est prévu. Comme ça, l'opérateur économique sera à l'aise.
Le représentant de la FEC, Fédération des entreprises du Congo pour la province de l'Équateur, M. Koundou. Mais, Askin, c'est une chanson qu'on a déjà entendue. Les opérateurs économiques ont toujours demandé ses voeux, toujours exprimé ses voeux, que l'État soit perçu de façon légale, que l'assiette fiscale soit adaptée aux circonstances, aux réalités, mais ses voeux n'ont jamais été exaucés. Est-ce que vous avez posé la question au gouverneur de province?
Eh bien, Walter, nous avons joint au téléphone le gouverneur de province, Yves Mobandoyogo. Voici ce qu'il dit à propos de vœux des opérateurs concernant le paiement de taxes.
Le paiement d'une taxe échelonnée, ça ne peut pas se faire à tous les opérateurs économiques. Un paiement échelonné, c'est-à-dire on accepte la taxe qu'on vous demande de payer, mais compte tenu peut-être des difficultés financières, vous demandez à ce que ça soit échelonné. Ça, c'est un. En fait, concernant le guichet unique, évidemment, à l'époque, nous, on réfléchissait peut-être le guichet unique de notre façon. Mais aujourd'hui, il faut aller voir le guichet unique à Matadi. Ça demande beaucoup de frais. Il faut des ordinateurs. Il faudrait que certains services soient connectés. Il faudrait une connexion pour tous ces services-là pour que le guichet unique puisse marcher. Et ça demande beaucoup de frais. Il faut demander aux gens de l'OCC, il faut demander aux gens de l'OFIDA qu'est-ce qu'ils ont dépensé comme argent pour pouvoir mettre en place le guichet unique. Moi, je pense que parler de guichet unique dans la province de l'Équateur, c'est un système pratiquement électronique. On ne pourra pas le faire. Mais si les opérateurs économiques ont une autre proposition, nous pouvons nous adhérer à cette proposition pour voir dans la mesure du possible pour leur faciliter la tâche.
Voilà, le gouverneur de province de l'Équateur, M. Yves Mobandoyogo, dans la mesure du possible, on pourra le réentendre tout à l'heure, en direct cette fois-ci. Askin Zigbia, merci beaucoup pour avoir fait entendre la voix des opérateurs économiques et bonne journée à Manaka.
Merci et à la prochaine.
Au revoir. Sur Radio Okapi, nous clôturons Okapi Action. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été fidèle au magazine. Rendez-vous demain, 9h02, heure de Kinshasa.